Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en avril 2012 et c'est le numéro 14. Sinon, voyons voir dans les autres news, juste deux petits trucs. D'une part, le financement par Ulule du jeu Donjon dont j'ai parlé la dernière fois. Et effectivement, en plein finissement, puisque ça s'est terminé. Et le jeu devrait parvenir début mai aux souscripteurs. Bon, je pense que ça aura un peu de retard, comme d'hab. Hein. Mais je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution du chose. Et enfin, un dernier petit truc pour un petit mot sur un blog rôliste que j'aime bien, qui s'appelle Du bruit derrière le paravent. Donc, c'est un blog qui parle de règles, de façons de jouer, de jeux indés, enfin plein de trucs sympas avec des gros bouts de narrativisme dedans. Je suis sûr que ça te passionnerait, Cyril.
Mais oui, tout à fait. Le narrativisme, je ne vis que pour ça. En fait, je crois que tu m'en avais déjà parlé de ce blog, non ?
Je crois pas.
Ou alors, j'en ai entendu parler par ailleurs, alors.
Ah, peut-être.
Mais du coup, j'irai jeter un coup d'œil.
D'accord. Bon, eh bien, passons tout de suite aux critiques. Donc, je vais commencer, pour une fois, avec My Life with Master.
Oh mon maître, parle-moi de My Life with Master.
Tais-toi, petit insolent! J'allais justement y venir. My Life with Master se déroule quelque part dans l'est de l'Europe, au début du 19e siècle. Par exemple ici, à Kobalgrad. Sur une lande désolée au bosquet de graminées fouettées par les vents, là se dresse ma demeure, gothique, entourée d'un jardin au statut grotesque, un Cthulhu Calipige, une Vénus de Beholder, un centaure priapique à tête de Didylicérix, un croc discobol et moultes autres. Au-dessus de ma porte, il y a écrit « Air professeur Kobalski, jeu de rôlogue ». Car en effet, dans mes caves, je m'emploie à créer le rôliste parfait. À partir de morceaux de villageois cousus ensemble, le corps ainsi constitué sera rempli de narrativium, le terrible sérum dont je suis l'auteur. Et c'est à toi, Cyril, d'aller me chercher des villageois pour une expérience, n'est-ce pas ?
Oui, mais c'est-à-dire que la jeune femme est si gentille avec moi, elle... Elle a même regardé mon visage ingrat, à plusieurs reprises, sans défaillir.
Je ne veux pas le savoir. Je veux son intestin grêle pour mon expérience et c'est primordial. Débrouille-toi comme tu veux. Moi, je reprends ma critique. On incarne donc dans ce jeu des sbires, des gonkoutous, des êtres affligés par le sort qui sont au service de leur maître, incarné par le MJ. Les sbires en question pourvoient aux désirs et aux besoins de leur maître et font pour lui tout le sale boulot, tel que ramener des victimes, déterrer des cadavres ou se livrer à des rituels malsains. Un peu comme moi dans ma cave. Car le maître a toujours un but ultime, bien sûr effrayant, avec lequel il essaie de complaire aux autres. Alors les autres en question, c'est des individus ou un groupe auquel le maître cherche à appartenir. C'est-à-dire que, par exemple, le Air Professeur Kobalski pourrait chercher à plaire à d'autres jeux de rôlogues. Ou en tout cas, le maître fait toujours ça dans un but social, en fait. Donc, les personnages sont aussi animés d'un violent désir d'être aimés, mais justement par les villageois auxquels ils seront amenés à faire du mal. Donc ce qui les met évidemment dans une situation impossible et c'est justement ce conflit émotionnel violent qui est mis en scène dans le jeu. Donc bien sûr tout cela ne peut que se terminer très mal et...
J'en ai marre de vos expériences horribles, vous n'êtes qu'un monstre!
Mais oui bien sûr, laisse-moi parler. Les personnages sont décrits par trois caractéristiques, la lassitude, le dégoût de soi et l'amour. Ces trois caractéristiques vont évoluer donc en fonction des échecs ou des succès des personnages dans leurs interactions avec les villageois et le maître. En sachant que plus ils arrivent à augmenter par exemple leur amour, plus, c'est-à-dire lorsqu'ils réussissent à créer un lien social avec les villageois, plus cet amour augmente, plus finalement cela crée de la distance ou cela les aide à lutter contre le maître, à lutter contre son influence. Donc c'est un jeu qui est extrêmement codifié. Donc tant sur les règles qui conditionnent l'évolution du personnage
Par exemple, lorsque tel Karak plus tel Karak sont supérieurs à tel Karak, des choses commencent à se produire. D'accord ? Et donc ça conditionne l'évolution du personnage ainsi que la structure même de chaque partie qui reprend tout le temps le même schéma. Donc c'est-à-dire des sbires au service d'un maître qui vont finir par s'opposer à lui et finalement tenter de mettre fin à son joug ou en tout cas essayer de le tuer ou enfin bref, ça peut ne pas réussir mais ils essaieront. Donc le jeu propose également des mécanismes narratifs qui permettront aux joueurs de développer certaines scènes centrées sur le personnage. Et le MJ est incité à cadrer les scènes de façon à toujours plonger les personnages au moment où quelque chose d'intéressant se passe. Mais Cyril, vile petite créature, meurs, que fais-tu avec cette fourche ?
Meurs, vile créature ! Tiens, ah, et tiens, ah, et tiens, ah.
Je vais quand même apporter une brève conclusion après ce petit passage. Ouais, le jeu est...
Burn the Witch.
Ouais, c'est ça. Donc le jeu est vraiment très intéressant, il faut au moins le lire, je pense. C'est donc un jeu qui est paru chez la boîte à E. Il existe deux versions de l'édition française. Il y en a une à couverture souple et une à couverture dure. Bien sûr, les vrais collectionneurs prendront la couverture dure, hein, évidemment.
On vous laisse deviner dans quelle catégorie se range Cobalt.
Alors le prix, je sais plus, mais c'est pas très très cher. C'est peut-être une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement.
De toute façon, Cobalt, il a un abonnement au magasin de jeux, 300€ par mois. On n'en parle plus. Et puis, mais il vient et c'est comme un buffet. Il prend tout ce qu'il veut.
Voilà, c'est un peu ça. Ça leur coûterait, contrairement à ce que tu crois, ça leur coûterait encore plus cher s'ils faisaient ça. Donc voilà, un jeu vraiment très intéressant avec un... Donc effectivement, comme je l'ai dit là, il y a quelques minutes, c'est super cadré et tu ne peux pas finalement raconter d'autres histoires que celle-là. Mais par contre, il y a plein de versions différentes. Donc tu peux avoir du Frankenstein, l'île du docteur Moreau... par exemple, l'histoire de Dracula... Où tu peux, où tu es sous le joug du vampire et tu lui amènes des victimes.
Est-ce que c'est un jeu qui est conçu vraiment pour être joué avec des groupes ou alors ça peut être un joueur, un MJ ou...
Non, c'est fait pour des groupes. Hein,
ça fait aussi un peu penser. Donc il y a plusieurs sbires qui. D'accord.
Ouais, tout à fait. Alors, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait. On ne réfléchit pas en tant que groupe. C'est vraiment chaque protagoniste est vraiment un individu dont le joueur va étudier le propre développement, si tu veux. Il n'y a pas de destinée de groupe. C'est vraiment une affaire d'individu. Et voilà, un jeu super sympa, donc je vous incite vivement à vous y intéresser.
Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Loup-garou de Tiercelieu. Parce que Loup-garou a aussi la même histoire qui se déroule, hein, mais à chaque fois, la façon de la raconter donne tout son sel à la partie.
Non, vraiment pas. on peut effectivement y voir quelques liens de loin comme ça dans le brouillard, mais... Non, mais je veux dire la mécanique fait qu'effectivement il y a toujours une rébellion à la fin contre le maître, mais dans le Loup-garou de Tiercelieu il y a rien en fait qui amène à une confrontation, puisque au final les loups-garous pas les vampires, peuvent très bien gagner, c'est-à-dire ils mangent tout le monde.
Oui, mais alors là le maître ne peut pas gagner dans ce jeu. Il n'y a aucun défi alors.
En fait, il y aura toujours au moins une tentative de renverser le maître. Mais il ne s'en tirera pas à si bon compte, si tu veux.
Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que le narratifium ?
Eh bien, je vais t'emmener dans la cave et je vais te montrer ça.
Oh oui, maître.
Bon, alors, trêve de plaisanterie. Si tu nous parlais un petit peu de billets rouges.
Alors oui, je vais vous parler de Billet Rouge, donc qui est un jeu de rôle basé dans une Écosse alternative uchronique du début du 19e siècle. Voilà, donc c'est un jeu français hein, qui est le résultat, si j'ai bien compris, d'un concours. Enfin,
Oui, oui, tout à fait, voilà. Oui.
Et qui est édité. Alors, attends, hop. Donc, qui est édité par Forge, par le collectif Forge Songe,
ouais, tout à fait,
ouais.
Et les écuries d'Augias.
Voilà, et les écuries d'Augias. Donc, le but était de créer un jeu de rôle complet dans un délai de 2 semaines. Là, l'introduction. Et le thème de cette édition était constitué de 2 citations que je vais vous citer. La première, c'était une citation d'Honoré de Balzac. Il y a 2 histoires. L'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Et puis l'autre citation, L'autre citation, c'est de Johann Huizinga, dans Le déclin du Moyen-Âge. Je ne sais pas ce que ça doit être un bouquin d'histoire, je suppose. Où il écrit « Chaque histoire laisse plus de traces de ses souffrances que de son bonheur. Ce sont les infortunes qui font l'histoire. » Donc, en gros, le terrain est posé. C'est pour un jeu de rôle basé sur l'histoire, avec une période de souffrance, et puis avec mm-hmm. une histoire secrète qui est en parallèle de l'histoire officielle. Donc c'est le contexte de ce jeu. Il se déroule dans la ville d'Édimbourg au début du 19e siècle, mais depuis 2 siècles, on va dire 2-3 siècles, l'histoire a dévié de l'histoire officielle, enfin de l'histoire qu'on connaît nous, plutôt. Tout simplement, il y a eu une peste qui a eu des conséquences inimaginables, puisqu'elle a entraîné des mutations. Bon, d'abord, elle a bien sûr tué des tas de gens, mais les Édimbourgeois ont maintenant des enfants mutants, beaucoup d'entre eux. Donc, au début, ils sont tués à la naissance, etc. Et puis, petit à petit, bah, comme le phénomène ne s'arrête pas, bah, ils sont plus ou moins tolérés et
mais la population commence pas par décroître massivement.
La population décroît massivement, effectivement. Voilà, c'est une période assez difficile, mais en fait, bon, la ville est assez rapidement mise en quarantaine hein, à cause de la maladie et puis de la peur aussi que les mutations se répandent hors de la ville. Et en fait, au bout d'un certain temps, il y a une certaine prospérité économique qui réussit à se développer dans certaines parties de la ville parce qu'elle exporte du whisky, tout simplement, hein, c'est Édimbourg, et ce whisky est très populaire. Et puis aussi, en fait, il y a des tas de médecins qui sont venus à Édimbourg pour étudier la maladie et essayer de la sauver. Et lorsque la décision de la quarantaine est tombée, en fait, ils ont été piégés dans la ville. Et du coup, l'université de médecine d'Édimbourg est devenue le centre de recherche le plus important du monde.
D'accord.
Et du coup, il y a des étudiants en médecine qui réussissent à se faire admettre au sein de la ville en quarantaine pour profiter de cet environnement exceptionnel pour faire de la chirurgie ou étudier les maladies, ce genre de choses.
D'accord.
Et les mutations. Donc ça, c'est le contexte général. Les mutants, ils évoluent progressivement et ça s'accélère à l'adolescence. Et pour certains, ils deviennent des hommes rats, en fait. Et à ce stade, ils sont vraiment tués. S'ils réussissent à s'échapper, ils vont dans des galeries qui creusent au plus profond de la ville.
Le final de la mutation, c'est des hommes rats.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, l'idée de base, au début, ça a été de se débarrasser des mutations en enterrant toute la vieille ville avec ses ruelles sordides, etc. Donc il y a d'abord eu de grands travaux toute une partie de la ville, enfin toute la ville a été enterrée et on a reconstruit dessus d'autres bâtiments en fait. Mais en fait, les hommes rats, les mutants, se sont répandus dans les vieux souterrains et les ont agrandis, etc. Donc il y a deux villes, hein. Il y a la ville d'en bas, on va dire, et puis la ville d'en haut qui est centrée autour d'une grande artère qui s'appelle le Royal Mile. Voilà, donc ça c'est Édimbourg. Je suis jamais allé à Édimbourg, il paraît que c'est une très belle ville, mais là, visiblement, l'auteur a trippé sur la ville et puis a fait quelque chose de tout à fait différent. Donc il y a des mutations, il y a une ville en quarantaine. Je vous ai dit qu'il y avait déjà des étudiants en médecine qui pouvaient entrer. Il y a aussi parfois des autorisations spéciales de circuler dans la ville qui sont toujours limitées à 2 jours. C'est assez important de retenir ce nombre. C'est de quelques heures à 2 jours. D'accord. Et ça s'appelle un billet rouge, d'où le nom du jeu. Voilà, donc les gens peuvent avoir des billets rouges pour venir traiter des affaires dans Édimbourg. Mais ils doivent ressortir, bien sûr. Et puis bon, ils sont examinés hein, s'ils sont malades, ce genre de choses, mais ils vont rester à l'intérieur. Ils sont fouillés. Enfin, il y a un contrôle très strict qui est effectué par une milice, voilà, qui a un peu tous les pouvoirs pour faire respecter cette quarantaine, cette mise en quarantaine. Bon, ensuite, il y a des enjeux politiques puisque pour des raisons économiques déjà, puisque en fait le commerce du whisky a pris vraiment une grosse ampleur et a permis à une certaine classe de la population de s'enrichir et de sortir de la misère, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Hein, il y a encore une grosse misère. Mmh. Et il y a aussi des enjeux par rapport à la royauté, hein, parce qu'il y a eu l'union entre l'Angleterre et le Royaume-Uni, etc. Du coup, il y a une organisation dirigée par le gouvernement qui s'appelle l'Œil de Londres. Un petit peu une agence de renseignement ou une agence secrète en fait qui emploie des agents pour mener des missions à l'intérieur de cette ville. Ça peut être aussi simple que d'escorter quelqu'un pour s'assurer qu'il lui arrive aucun malheur, parce qu'en fait les lois britanniques s'appliquent dans le Royal Mile, donc cette grande artère, et puis ensuite dès qu'on la quitte et dès qu'on va dans les closes, c'est-à-dire les petites ruelles, là on s'expose à tous les risques. Cet œil de Londres agit dans Édimbourg par l'intermédiaire de ses agents, et vous l'aurez deviné, les joueurs sont ces fameux agents. D'accord. Ils vont bénéficier d'un billet rouge à chaque fois pour entrer dans la ville et y mener une mission. Et ensuite, ils en ressortiront. La particularité de ces agents, c'est que, en fait, pour diverses raisons, l'Œil de Londres voulait des agents qui soient dénués de scrupules, qui aient certaines compétences et qui soient capables d'agir dans des circonstances particulièrement pénibles. Et donc, ils ont sélectionné des criminels.
On joue un criminel.
Ouais, en fait, au début, tu commences, tu es dans une prison de Londres ou d'ailleurs, particulièrement pénible, ta vie n'est pas très gaie. Uh-huh. Et puis, on t'invite dans une prison de luxe. On te laisse durant quelques jours en profiter pour que tu te dises « Ah, c'est pas mal d'avoir un vrai lit et puis d'avoir une fenêtre et de la lecture ou je sais pas quoi. » Et en fait, ensuite, on te donne le deal. Bon, le deal, c'est que si tu veux profiter de cet environnement, si tu veux pas retourner dans la prison toute glauque, il faut devenir un agent de l'Œil de Londres. Voilà, donc les joueurs jouent des criminels avec des pulsions criminelles bien précises.
Ah, et, d'accord.
Avant de venir à ça, je vais juste insister sur un fait qui m'a paru très important dans le jeu et qui est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant quand on y pense. Donc, ce sont des criminels qui sont gardés dans des prisons de luxe la plupart du temps, des prisons de luxe où ils n'ont aucune liberté et où ils ne peuvent pas assouvir leurs pulsions ou même leurs désirs. C'est-à-dire qu'en dehors des missions, en dehors des parties de jeu, les personnages sont vraiment dénués de toute liberté. Ils vivent dans le confort, voire dans le luxe, mais c'est une prison. Et durant les parties, les joueurs font des missions, bénéficient du billet rouge, vont dans Édimbourg, qui est une ville où règne quand même, d'une manière générale, la misère, qui est une ville assiégée. Les gens sont emprisonnés dans les murs, il y a des forces armées qui les empêchent de sortir. Uh-huh. Ils sont considérés avec méfiance par le reste du monde. Et dedans, il y a toutes sortes de... Enfin, parfois, il y a des cloques, voilà. Uh-huh. Mais c'est aussi le seul espace où ils auront la liberté, y compris la liberté de
se défouler.
Oui, de se défouler, d'accepter leur vice. Parce qu'en fait, et là encore une très très bonne idée de ce jeu, chaque fiche de personnage. Enfin, c'est un jeu qui tourne sur la psychologie. Hein. Les compétences, il y en a, mais c'est vraiment pas ça qui fait tourner le jeu. Ce qui est intéressant, c'est la psychologie des personnages et le contraste entre l'équilibre à trouver entre le fait d'accomplir leur mission et de sortir avant le délai d'expiration du billet rouge. Ah oui, parce que après le délai d'expiration du billet rouge, c'est pas la peine de vous présenter aux portes, vous serez refoulé. Donc, il y a toujours une contrainte de temps.
D'accord. Voilà.
Donc il y a ça, et puis il y a le désir donc d'exprimer leur pulsion, leur vice. Et donc la fiche de personnage de chaque joueur comporte un recto où il y a sa vertu. Et à verso, il y a son vice. Et en fait, lorsqu'on décide de céder à la pulsion, on retourne la feuille et là, on a des caractéristiques différentes à utiliser et des compétences différentes qui peuvent parfois être utiles, mais qui aussi ont un prix à payer parce que.
Et en fait, ça peut être des compétences, identiques mais avec un niveau différent ou alors c'est complètement différent le genre de choses qu'on peut faire.
Alors en fait il y a des caractéristiques psychologiques, donc ça c'est un peu inversé.
Ouais.
Là tu me poses une question, faudrait que je regarde.
Ouais. Bref, continue.
Bon, le fait est qu'ils peuvent parfois, c'est pas que du négatif, ils peuvent exploiter ça. Cependant, céder au vice peut être parfois un avantage technique temporaire, mais ça peut être aussi une nécessité parce qu'en fait, lorsque des tentations passent devant vous qui correspondent à votre vice particulier, si vous ne cédez pas à la tentation, vous avez des malus ensuite, et ces malus s'accumulent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que le maître de jeu doit doser afin de rajouter du piment pour laisser toujours les joueurs qu'ils craignent le moment où ils n'auront pas d'autre choix que de redevenir le criminel qu'ils sont. Alors que quand ils sont en prison, en fait, ils sont ils subissent des électrochocs, ça n'existe pas à l'époque, mais l'équivalent quoi pour les
calmer.
Les calmer. Enfin, ils sont super cadrés, ils n'ont aucune liberté, ils n'ont même pas la possibilité de céder. Mais on leur lève le cerveau, ce genre de choses. Donc à un moment donné, ils sont bien obligés de céder à cette pulsion. Mécaniquement, avec le malus de moins 2 cumulatif à chaque tentation auquel on cède pas, à laquelle on cède pas, ils sont bien obligés de le faire. Et le problème, c'est que lorsqu'on est en phase vice, on ne va pas sortir de la ville volontairement, parce que c'est le seul. Dr Jekyll et Mr Hyde.
Oui.
Imaginez, vous êtes Dr Jekyll durant la mission, mais à un moment vous devez exploiter la force de Mr Hyde. Et le problème, c'est que Mr Hyde, il veut pas retourner en prison lui. Et il en a rien à foutre si le billet rouge expire. Donc ça peut-être c'est aux autres joueurs de se surveiller les uns les autres. J'en conclus parce que c'est pas forcément exprimé comme ça, mais si parfois même aller retrouver le joueur qui se serait enfui ou pour le rattraper avant que ça soit expiré. J'imagine qu'il doit y avoir des situations comme ça. J'ai pas lu tout le bouquin parce qu'en fait j'ai pas lu les deux scénarios à la fin.
Ouais.
Donc c'est un bouquin qui fait 80 pages qui comprend deux scénarios, donc comme c'est un bouquin, comme c'est un jeu de rôle basé sur le quand même sur l'histoire, même si ça s'autorise des changements assez conséquents, on peut retrouver tous les personnages historiques de l'année 1800 et des poussières. Le premier scénario, je ne dévoile rien en disant que les joueurs vont assurer la sécurité d'un dignitaire médical qui doit visiter Édimbourg, et en fait c'est le type qui a inventé le vaccin contre c'est lui qui a inventé le vaccin le créateur du vaccin avant Pasteur. Un des fondateurs de l'immunologie. Voilà. Okay. Et donc c'est amusant parce que il y a eu quand même, on voit que l'auteur s'est documenté. Mm-hmm. Je pense que moi qui connais pas Édimbourg, bon, je suppose que le Royal Mile, ça doit exister, etc. Bon, mm-hmm. certains éléments. du coup, je me suis posé la question. Est-ce alors, c'est réel ou pas réel? Mais
est-ce qu'il était vrai ou faux,
il a quand même fait l'effort de documenter sur le côté historique. C'est intéressant. La ville est assez bien décrite, je trouve, parce que on voit bien les factions qui sont dans la ville. Il y a la milice, il y a les trafiquants de whisky qui sont devenus légaux et qui ont établi un monopole. Il y en a d'autres qui essaient de s'imposer. Il y a toutes les tendances religieuses, à commencer par l'église officielle qui est l'église épiscopalienne, c'est-à-dire dirigée par les évêques. Uh-huh. Il y a quand même d'autres tendances religieuses qui peuvent s'exprimer, etc. Uh-huh. Il y a le Conseil des 13 qui est une sorte de voilà de en gros c'est un peu les dirigeants finalement du coin. J'ai trouvé que c'était un jeu intéressant parce que il y avait toujours ce contraste entre les objectifs propres des joueurs,
oui.
Qui sont des criminels, criminels qui ont été attrapés, qui ont peut-être été condamnés à la peine de mort ou à la prison, parce qu'en fait, en théorie, ils sont tous, je crois, condamnés à la peine de mort. Donc, c'est un peu un scénario à la Nikita, quoi, quelque part.
Oui, d'accord, ok.
Il y a le fait que les joueurs ont des objectifs et puis leur employeur a un objectif qui lui est totalement différent parce que l'œil de Londres c'est une organisation étatique donc voilà ils ont des objectifs qui sont différents et je pense que ça doit faire des scénarios assez des parties assez intéressantes. Ça se traduit dans le jeu par deux caractéristiques, la confiance, alors je me souviens plus du terme exact. Il y a en gros deux caractéristiques, une pour la confiance de l'employeur, c'est-à-dire le degré de confiance accordé par l'œil de Londres à ses agents, à chaque agent,
oui.
Et une sur le relation de l'agent au sein de la cité. On peut imaginer qu'un joueur, par exemple, se soit bien fait voir de ses maîtres, c'est peut-être lui qui se verra confier la direction de la mission et du groupe, tandis qu'en fait, il sera complètement dépendant d'autres joueurs qui, eux, auront les relations au sein de la ville, ce genre de choses. Voilà, donc, je pense que toutes ces mécaniques font que c'est un jeu qui est intéressant à jouer en groupe, vraiment, parce que... il y a des tas de raisons pour les joueurs d'interagir là-dessus et ils doivent se surveiller un peu les uns les autres. Ça fait aussi peut-être un petit peu penser, alors c'est peut-être encore une fois une comparaison idiote, hein, je sais que tu ce que tu penses de mes comparaisons, mais ça me fait un peu penser parfois à Wrath à l'époque où il y avait le côté obscur là, enfin la toute première édition de Wrath. Si genre, je me souviens bien.
L'Umbra, machin, tout ça.
Non, c'était rien à voir. Tu jouais des fantômes et t'avais les fantômes qui avaient leur côté sombre.
Ouais.
Et en fait, toi, tu jouais ton personnage et puis le type est à gauche ou à droite, je sais plus, jouait ton côté sombre, ton côté vicieux. C'est pas cette mécanique-là, mais il y a quand même l'idée que les joueurs sont intéressés dans les psychologies des autres. Ils y ont un intérêt concret parce qu'il faut absolument que. Qu'ils évitent que les autres perdent les pédales, voilà.
D'accord. C'est assez intéressant parce que, en fait, pour une fois, on joue pas des héros du tout, quoi.
C'est juste qu'ils sont contraints par le
système, ouais, en quelque sorte, ouais. par leur environnement, à accomplir des trucs, alors que c'est des sales types. Ou des...
Dans les exemples, il y a eu un personnage qui c'est une anthropophage et l'autre exemple c'est un justicier qui un serial killer, je crois, qui s'attaque à ceux qui maltraitent les femmes. Mais encore une fois, on sent que c'est des c'est des vices acceptables, enfin même anthropophage, mais il y a des tas de trucs beaucoup plus glauques qu'on pourrait imaginer, et donc je suis reconnaissant déjà à l'auteur du jeu de pas en avoir fait un truc d'art et d'essai où on se prend la tête. Je pense que ça doit rester quand même un jeu assez plaisant à jouer, Donc il faut bien réfléchir. Je pense que la décision la plus importante du jeu en tant que joueur, c'est réfléchir à quel va être votre vice, votre crime, votre pulsion, et à trouver quelque chose qui soit pas trop pénible et pas trop glauque forcément. Anthropophage, c'est tellement bizarroïde que ça peut passer, mais bon.
Tueur de caniche.
Ah, il faut quand même que ça ait des conséquences. Hein. L'auteur dit, oui, mais attendez, si c'est juste les femmes de 40 ans, les nuits de pleine lune, ça marche pas.
D'accord. Ah oui, donc il faut trouver un truc qui soit pas trop glauque, mais...
Il faut qu'on soit confronté, je pense, à au moins une tentation dans le cadre d'une partie, sinon ça n'a pas de...
D'accord. Mais est-ce que ça peut être des trucs tout bêtes, genre t'es drogué
Pourquoi pas, ouais, je pense. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas. Il faut que ça soit punissable de mort.
Alors, tu te drogues au sang de vierge et...
Bah voilà, là, tout de suite. moi, j'ai beaucoup aimé la lecture. Voilà, hein, il décrit un peu l'historique, etc. J'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu d'explication au moment où... ça manquait un peu de liant au moment de l'explication sur l'œil de Londres. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Mais peut-être que c'est prévu d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, visiblement, le jeu a donc été conçu très très vite. L'idée, c'était de faire du jeu jouable tout de suite. On le voit, il y a deux scénarios qui sont assez grands, hein, assez longs. Donc, c'est pas mal. Ensuite, les petits détails de background, peut-être ça viendra plus tard si jamais il y a une suite. Sinon, on peut toujours les imaginer.
D'accord, merci Cyril. Bon. Eh bien, écoute, dans ce cas, nous allons passer à Parsley. Parsley, c'est un tout petit jeu qui est paru chez la boîte à E. Donc, c'est un jeu de Jared Sorensen qui fait partie des grands auteurs narrativistes, tout ça, tout ça. Donc en fait Parsley c'est pas complètement un jeu de rôle. Moi là on rentre vraiment dans le story game dans le sens où de toute façon il n'y a qu'un seul personnage et qui est en gros où ça peut même se jouer en groupe je pense dans une soirée tout ça un peu comme un loup-garou de Tiercelieu, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire il y a un meneur de jeu, ou en tout cas un animateur, et tu peux avoir tout un groupe qui va réagir au truc. Alors, comment ça se passe? En fait, Parsley, ça reprend le mécanisme des jeux d'aventure textuels du début des années 80. Genre les Colossal Cave et autres... ou le premier King Quest, ou les trucs où tu étais obligé de taper du texte et que celui-ci soit analysé par la machine, soit parsé, donc d'où le mot Parsley.
Ah, d'accord, c'est de là, voilà, que ça vient.
Et en fait, en tant que MJ, tu vas analyser bêtement la syntaxe des commandes que les joueurs te donnent. Donc, tu peux... avancer, reculer, aller à l'ouest, regarder autour de toi, faire faire demander l'inventaire de ce que tu possèdes, et tu vas évoluer comme ça dans un décor qui est prévu quoi. Donc ce sont les aventures qui te sont proposées dans ce jeu-là. Il y a deux aventures proposées qui sont Château Aventure et Aventure dans la jungle. Et donc il y en a d'autres disponibles gratuitement sur je sais plus où, mais je suis probablement sur le site de l'éditeur. C'est vraiment un jeu rigolo qui prend tous les poncifs du genre à la base quoi. À chaque fois c'est décrit avec des trucs pour le MJ de façon à ce qu'il puisse réagir correctement à ce que lui disent les joueurs. Par exemple, là je lis un truc, le temple du crâne doré. Donc ça c'est un lieu. Alors après il y a ce que tu dois dire, genre vous vous tenez à l'extérieur d'un magnifique temple en ruine. Il s'agit du mythique temple du crâne doré. Il y a un malicieux singe.
Regardez le malicieux singe. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Oui, tout à fait. Alors, donc si on regarde le malicieux singe, bon là j'ai pas le truc sous les yeux.
Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
Le singe est curieux et mignon.
Parler au singe.
Le singe ne comprend pas.
prendre le singe malicieux.
Ça n'a pas l'air de marcher.
Ah. Donner inventaire. Banane. trouver banane.
Bref, je...
Voilà.
Arrêtons
on
là.
On a compris le.
je pense que tu as saisi oui. Bien le principe. Donc voilà, ce sont des petites aventures très courtes avec un certain nombre d'objets, de lieux, de personnages avec lesquels il faut faire les bonnes interactions. Et je trouve le principe super rigolo. Et ça doit coûter peut-être 4 euros, je crois, un truc comme ça. Mais l'idée est vraiment très marrante. Et moi, ça m'a donné envie de faire un truc qui serait un équivalent au texte de l'Aigle d'Or, tu sais, qu'il y avait sur Henri Quatmos.
Ok, bon, d'accord. J'étais ailleurs à cette époque.
Bon, et bien voilà. Donc, un jeu bien sympathique.
Mais oui, en tout cas, c'est très drôle, quoi. Et t'as pas mentionné aussi le petit scénario qu'il y avait eu dans Casus Belli numéro 2.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu un là-dedans, hein. Ouais. Effectivement.
Et c'est vrai que c'est super amusant. Je sais pas si ça tient la distance, mais 10 minutes, ça doit être très marrant.
Ouais, ouais. Bah, en fait, je pense que bah, de toute façon, là, les scénarios, ils tiennent sur une page ou un truc comme ça. T'as quelques lieux, quelques objets, les interactions qui vont fonctionner, et puis après le reste, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu dans lequel tu peux sauvegarder. C'est-à-dire, si tu peux sauvegarder 3 fois en tout dans le jeu, et tu peux, et si tu meurs, tu peux charger la partie que t'as sauvegardée, et voilà, ce qui est assez marrant. Ce qui est assez marrant en soi. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Ouais, à moins que tu aies autre chose à dire.
Et non, je n'ai rien d'autre à dire, désolé.
D'accord.
Mais j'embrasse tout le monde.
Voilà, donc c'est terminé pour ce numéro. On se dit rendez-vous au mois prochain. Et puis, eh bien, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
Merci, allez. Salut.
Ciao. Alors, il paraît que Brand sait faire le grand écart facial.
Alors, j'ai entendu des rumeurs. Et tout à l'heure, j'étais assise à côté de deux personnes qui me disaient l'avoir vu. Je n'en sais pas plus.
D'accord.
Bah, c'est ce qu'on dit sur toi actuellement. Hein. Voilà. C'est... Mais bon, je... Facial.
Facial, oui, mais pas grand écart.
Ah bon, donc ce ne sont que des rumeurs. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux lui demander directement.
Oui, d'accord, je vais tâcher de faire ça.
Ça fait partie des secrets de Brand.
D'accord.
Faut pas dévoiler.